Vous écoutez France Inter, il est 18h. Claire Servagent à l'antenne, bonsoir à tous. C'est parti pour une soirée exceptionnelle sur l'antenne de France Inter. Jusqu'à 19h, la suite de notre feuilleton de la France et une série inédite des bobineaux de Thomas Legrand. Ensuite, à 19h, le journal de Frédéric Barrère. Puis à partir de 19h15, notre grande soirée électorale. Avec Jérôme Cadet, Yael Gauz et tout le service politique de France Inter. Nous serons aussi avec le politologue Stéphane Zumsteg, directeur du département politique opinion de l'Institut Ipsos Soprasteria. Notre partenaire pour cette soirée, c'est lui qui nous donnera les premières estimations à partir de 20h. Deux politologues pour nous accompagner également, Céline Braconnier et Rémi Lefebvre, sans oublier tous les invités politiques qui se succéderont ensuite sur notre antenne. Mais d'abord, pour commencer cette soirée exceptionnelle, le journal de 18h, c'est avec Corinne Audouin. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. H-2, avant de connaître le nom du locataire de l'Élysée pour les 5 ans à venir, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, la participation à 17h est en baisse par rapport au premier tour et par rapport à 2017, 63,23%. Nous irons faire un tour dans deux bureaux de vote à Paris et à Rennes, voir s'il y avait en effet moins de monde qu'il y a 15 jours. Et on s'intéressera au vote des détenus pour la première fois à une élection présidentielle. Ils ont pu voter par correspondance. Dans le reste de l'actualité, l'agression d'un prêtre au couteau dans une église à Nice. Ses jours ne sont pas en danger. L'assaillant qui souffre de troubles psychiatriques a été arrêté. La guerre en Ukraine entre dans son troisième mois. Dans l'Est, les civils prennent les armes face à l'avancée russe. Et puis le Festival du Livre de Paris ferme ses portes au Grand Palais éphémère près de la Tour Eiffel. Bilan de cette première édition avec son directeur Jean-Baptiste Passé.
France Inter.
24 avril 2022, la date figurera dans les livres d'histoire. En cas de réélection d'Emmanuel Macron, ce serait la première fois qu'un président sortant est réélu sans avoir connu de cohabitation. En cas d'élection de Marine Le Pen, ce serait la première femme et la première candidate d'extrême droite à accéder à l'Élysée. Alors encore un peu de patience, vous le savez, le résultat c'est à 20h précise ce soir et pas avant. Le seul chiffre que l'on peut vous donner, c'est celui de la participation à 17h. Est-ce l'effet des vacances, de la météo plutôt clémente, ou d'une démobilisation entre les deux tours, puisque l'affiche est la même qu'en 2017. En tout cas, la participation est en baisse. Gaëlle Joly, vous êtes au ministère de l'Intérieur. Bonsoir.
Bonsoir Corinne.
63,23% de participation à 17h et c'est moins qu'au premier tour, Gaëlle.
Oh oui, c'est presque 2 points de moins qu'il y a 2 semaines et c'est 2 points de moins qu'il y a 5 ans en 2017 avec, vous le disiez, la même affiche, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. On était à 65,30%. C'est donc le pire taux de participation depuis au moins les 5 derniers scrutins présidentiels. Alors pour le détail, les départements qui ont le plus voté, ce sont l'Aveyron avec 70,51%, la Dordogne, les Landes, la Haute-Loire et les Pyrénées-Atlantiques. Ceux où on a le moins voté, ce sont les départements d'Île-de-France, Paris, Val-d'Oise, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, le 93 avec 44,96%, donc le taux de participation le plus bas. À Paris, 55,74% des électeurs se sont déplacés pour aller voter à 17h. C'est 3 points de plus qu'au premier tour, mais 3 points de moins qu'il y a 5 ans. À noter des hausses de participation dans certains départements par rapport à 2017, comme plus 6% dans le Var, plus 2% dans le Vaucluse, plus 1% dans le Pas-de-Calais.
Merci Gaëlle Joly, en direct du ministère de l'Intérieur. Et on va aller prendre la température tout de suite dans les bureaux de vote. À 17h, Paris, vous l'avez dit, comme toute l'Île-de-France, avait peu voté. Et vous l'avez constaté dans ce bureau de vote du 11e arrondissement de Paris, où vous trouvez Mathilde Dehimy.
Oui, dans ce bureau, à 58% de participation à 17h, c'est donc 5 points de moins que la moyenne nationale. Ici, au lycée Voltaire, il y a un flot régulier, presque ininterrompu, mais fluide. On ne retrouve pas les queues du premier tour où certains avaient attendu jusque 45 minutes. Yvette et Jean-François, 74 et 78 ans, se sont en fait adaptés en passant un peu plus tard que la dernière fois.
On a choisi un petit peu l'heure exprès.
On devait aller voter par procuration pour nos enfants, donc on est allé d'abord en banlieue et on est revenu après ici pour voter.
Des procurations, il y en a eu 12 de plus entre les deux tours, dans un bureau où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête devant Emmanuel Macron, Marine Le Pen se plaçant en 5e position. Yvette a tenu à se déplacer.
C'est hier soir que j'ai fini par décider.
Ouais, moi aussi d'ailleurs.
Ne pas venir Je suis une femme, il faut conserver le droit de vote. Ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein.
Voter à une élection présidentielle reste quelque chose de solennel, mais pas d'intime. Alain Jean prend en photo sa carte d'électeur.
J'ai pris des photos pour immortaliser le moment et sensibiliser mes amis. Je vais la publier dans les réseaux sociaux en disant bah, « allez-y voter, vous avez encore le temps d'aller voter ».
Alain Jean est venu avec ses deux filles. Ce sont elles qui, au premier comme au second tour, ont glissé l'enveloppe dans l'urne. Ici, les bureaux de vote ferment à 20h.
Merci Mathilde Dehimi avec Virginie Lorda. Direction maintenant plein ouest à Rennes où nous rejoignons Ajra Mohamed et la participation dans le bureau de vote où vous vous trouvez est stable, Ajra.
Oui, même si ça a commencé tout doucement ici à Rennes avec 27% de participation à midi dans la ville, en baisse de 2 points presque par rapport au premier tour. Mais effectivement, au fil de l'après-midi, eh bien les électeurs se sont réveillés, semble-t-il. Ils ont défilé dans les bureaux de vote. On atteint les 59% de participation à 17h. Mais on est loin encore du taux de participation final dans la ville à 70% au premier tour. Mais ça pourrait grimper encore puisqu'ici au bureau de vote de l'école Villeneuve où je me trouve, eh bien on continue à se presser jusqu'aux urnes. Beaucoup de parents qui viennent voter en laissant les enfants jouer dans la cour de récré au basketball. On a aussi croisé une femme très pressée avec sa valise à roulettes qu'elle traînait avec elle jusqu'à l'isoloir parce qu'il faut le savoir, beaucoup de Rennais rentrent de vacances ce soir. Demain, c'est la rentrée ici. Donc certains viennent directement de la gare en descendant du train. Rennes, ville, rappelons-le, dirigée par les socialistes depuis plus de 40 ans, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête au premier tour le 10 avril. Et Rennes, où les bureaux de vote ferment un peu plus tôt qu'à Paris, ce sera à 19h.
Merci Ajra Mohamed avec Romain Lukiens. Et puis c'est une première pour une élection présidentielle. Cette année, les détenus ont eu le droit de voter par correspondance. Autrement dit, ils ont voté durant la semaine dans leurs établissements pénitentiaires avant que leur bulletin soit transporté au ministère de la Justice, place Vendôme à Paris. C'est là qu'ils sont dépouillés depuis ce matin. Un bureau de vote pas comme les autres dans lequel s'est rendue Ariane Grissel.
Ici, pas d'isoloir ou de décor de salle de classe, mais les dorures du ministère de la Justice.
Donc ici, on est dans la galerie Perronnet.
Roxane Ducreux est référente citoyenneté à la direction de l'administration pénitentiaire. Elle surveille ce dépouillement qui se fait en 2 étapes, puisque les personnes détenues ont joint à l'enveloppe bleue qui contient leur bulletin, une copie de leur pièce d'identité.
Tous les volontaires procèdent d'abord aux opérations de pré-dépouillement. Donc ça consiste à faire comme dans un bureau de vote classique, vérifier l'identité de la personne, vérifier qu'elle a bien émargé au sein de l'établissement pénitentiaire quand elle a voté. Et on procède quand tout est régulier à la mise sous urne.
Oui, c'est bon. À voter.
Donc ici, on a 20 urnes. Plusieurs votes d'un établissement se trouvent dans chacune des urnes, ce qui permet aussi de préserver le secret du vote. Enfin, tout est mélangé.
En cas de doute ou de litige, la commission électorale est installée dans une salle attenante. Thierry Denard est le directeur adjoint de l'administration pénitentiaire.
Comme dans un bureau de vote classique, un détenu qui ne justifierait pas de son identité ou ne signerait pas, par exemple, la liste d'émargement, serait susceptible de voir son vote invalidé.
Près de 13 700 personnes détenues ont choisi de se prononcer par correspondance, ce qui fait du discret bureau de vote du ministère de la Justice le plus important de France.
Un reportage d'Ariane Grissel. Avec nous dans ce studio, Stéphane Zumsteg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département Opinion chez Ipsos Soprasteria, on l'a dit, notre partenaire pour la soirée électorale. Alors vous avez fait vos calculs quant à la participation finale lors de ce second tour et vous arrivez au chiffre de 72%, donc chiffre final, c'est votre projection, c'est-à-dire une abstention estimée de 28%, alors soyons clairs, c'est pas un bon chiffre.
Non, c'est pas un bon chiffre. L'abstention progresse par rapport au premier tour. Pour rappel, il y avait eu 26,3% d'abstentionnistes il y a 15 jours. Donc vous voyez, ça progresse encore. Et sur une perspective plus longue, les choses ne font qu'empirer. Quelques chiffres. En 2007, 16% d'abstentionnistes au second tour. En 2012, 20%. En 2017, 25%. Et ce soir, probablement autour des 28%. Il faut revenir à 1969. C'était il y a 53 ans quand même pour trouver une abstention aussi forte.
Et c'était une élection très particulière.
Très particulière après la démission du général de Gaulle, évidemment, mais hormis cet épisode-là de la vie de la Ve République, on n'avait jamais aussi mal voté qu'aujourd'hui, pour une élection présidentielle.
Oui, on sent qu'il y a vraiment une démobilisation entre les deux tours. Il y a quelque chose là qui s'est joué, puisqu'on a vu que la semaine dernière, c'était pas si mal. C'était un peu en baisse, mais moins pire que ce qu'on attendait.
Oui, c'était un petit peu rassurant, il y a 15 jours. C'était pas bon, mais rassurant, par rapport au raz-de-marée d'abstention qu'on attendait. Mais bon, la raison, il y a plusieurs raisons, évidemment, qui peuvent expliquer pourquoi les Français s'abstiennent de plus en plus. Pour un second tour d'une élection présidentielle, c'est assez logique. Il y avait 12 candidats, 10 ont été élus été éliminé, ces 10 candidats représentaient 50% des suffrages exprimés. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas, et parfois pas du tout, dans l'offre de second tour qui leur est proposée. Il y a cette tendance à s'abstenir. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les abstentionnistes du premier tour ne sont pas forcément les abstentionnistes du second tour, comme les votants du premier tour ne sont pas forcément les votants du second tour. Il y a plein de mouvements qui se produisent. Vous pouvez être démobilisé parce que vous êtes déçu du résultat du premier tour, mais vous pouvez aussi vous mobiliser parce que vous voulez vraiment faire un choix, ou faire barrage à l'un ou l'autre des deux candidats.
Est-ce que le fait que ce soit la même affiche qu'en 2017 a pu jouer ? Ça, c'est inédit, je crois. Est-ce que du coup, potentiellement, les gens ont l'impression de rejouer la même élection ?
Oui, il y a toujours ça participe à cette lassitude à l'égard des scrutins présidentiels et notamment à l'égard des seconds tours. L'offre est toujours la même et donc ça amplifie l'idée selon laquelle, qui est exprimée par beaucoup de Français et de Françaises, selon laquelle ce sont toujours les mêmes et qu'ils disent toujours la même chose. Donc c'est sûr que si vous leur proposez à chaque fois la même offre, évidemment vous aurez encore plus tendance que d'habitude à considérer qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement dans le personnel politique et que celui-ci reste toujours aussi éloigné, parce que c'est quand même le principal reproche qui est fait, toujours aussi éloigné des préoccupations, des vraies préoccupations des Français.
Merci beaucoup Stéphane Zumsteg. On vous retrouve tout à l'heure pour la soirée spéciale élection de France Inter à partir de 19h20.
Il est 18h11 sur France Inter. Vous écoutez le journal de Corinne Audouin. On part à Nice, Corinne, où il a dit aux policiers qui l'ont arrêté qu'il voulait tuer Emmanuel Macron.
Oui, ce matin, juste avant la messe, dans l'église Saint-Pierre d'Arennes, un homme de 31 ans a attaqué un prêtre avec un couteau. Le prêtre est blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Inconnu de la justice, l'assaillant a été placé en garde à vue. Il souffre de troubles psychiatriques. À ce stade de l'enquête, la piste terroriste est écartée. Et c'est grâce à l'intervention de plusieurs paroissiens que l'agresseur a pu être stoppé. Le récit de Julie Munch de France Bleu Azur.
Le père Gilles Florigny raconte une scène confuse survenue juste avant le début de l'office.
Pendant la préparation de la messe, un jeune paroissien, disons, pour être simple, plutôt connu par le père Christophe, est venu et puis la discussion s'est engagée et à un moment il a sorti un couteau, il a voulu donner des coups de couteau au père Christophe, mais il n'en avait pas contre le père Christophe.
Il en voulait en fait à Emmanuel Macron, c'est lui qu'il voulait tuer en ce jour d'élection. C'est ce qu'il a déclaré aux policiers venus l'arrêter. Cet homme de 31 ans explique s'être, entre guillemets, rabattu sur le prêtre.
Bien sûr, le président de la République n'étant pas dans ma sacristie, il s'est réfugié derrière le père Christophe. Il a sorti le couteau, sœur Marie-Claude s'est opposée et ils ont reçu des coups de couteau tous les deux.
Alors même que le suspect connaissait ses victimes, il venait régulièrement à l'église quand il n'était pas malade ou hospitalisé pour des troubles psychiatriques.
Je ne sais pas comment on dit parce que je ne suis pas psychiatre, hein, mais que c'est quelqu'un qui peut ressembler, disons, à un bipolaire, quoi. Il y avait des jours où il était exubérant, gentil, content, avec des grands sourires, il faisait la bise à tout le monde. Puis il y a des jours où c'était moins ça, et aujourd'hui, ça devait être un mauvais jour.
Les enquêteurs vont donc faire appel à des experts psychiatres pour compléter leurs investigations. Le suspect est en attendant en garde à vue.
Julie Munch de France Bleu Azur. Le parquet de Périgueux ouvre une enquête à son tour dans l'affaire des piqûres en soirée. Deux jeunes hommes de 18 et 24 ans ont porté plainte. Ils pensent avoir été piqués pendant une tournée des bars de la ville.
En Ukraine, Corinne, triste Pâques orthoxe pour les habitants qui ont tenté de le fêter malgré tout.
Oui, 2 mois jour pour jour après le début du conflit, sauver tous les Ukrainiens, a imploré le président Volodymyr Zelensky, tandis que le pape François appelait à une trêve des combats. Les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis sont attendus aujourd'hui à Kiev, première visite américaine en Ukraine depuis le début de la guerre. Sur le terrain, les combats se poursuivent dans le Donbass et le sud du pays. La Russie ne fait aucun mystère de ses objectifs. Elle veut prendre le contrôle total de ces zones. Et dans le viseur des forces russes, il y a notamment la ville de Sloviansk, 100 000 habitants avant le conflit, moins de 30 000 aujourd'hui. Nos envoyés spéciaux dans cette ville de l'Est de l'Ukraine, Gilles Gallinaro et Omar Waman, ont rencontré des civils qui ont pris les armes.
Dmitro se réjouit des déboires de l'armée russe qui peine depuis plusieurs jours à percer les lignes ukrainiennes.
Ils n'ont pas les moyens de nous encercler ou de lancer une grosse offensive. Ils ont redéployé des troupes dans le Donbass, mais ça ne servira à rien.
Que pensez-vous de cette armée russe qu'on a présentée comme infaillible ?
Non, non, elle est nulle. On l'a vu combattre. Par rapport à nous, l'armée russe ne vaut rien. L'armée soviétique était composée de nombreux soldats ukrainiens. C'est pour cela qu'elle était puissante. Aujourd'hui, les Ukrainiens combattent pour leur terre.
Et pour ce soldat originaire de cette ville de Sloviansk, l'armée russe a déjà payé un lourd tribut dans cette guerre, bien plus lourd qu'en Afghanistan dans les années 80.
C'est 100 fois pire. L'Afghanistan, c'était rien. C'est la mort qui attend les Russes ici. Ils ont perdu plus de 10 000 hommes en 10 ans en Afghanistan. Alors qu'ici, ce sont 20 000 tués en 52 jours. C'est ça la vérité.
Une humiliation que Vladimir Poutine tente de dissimuler à sa population. Sloviansk, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Dans l'actualité sportive maintenant, au terme d'une course épique marquée par une chute collective à 60 km de l'arrivée, le cycliste belge Remco Evenepoel remporte Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Le français Julian Alaphilippe a été blessé dans la chute et contraint d'abandonner. Et puis en football, Rennes bat Lorient 5-0 et retrouve la troisième place de la Ligue 1. Bordeaux chute 5-3 à Nantes. Les Girondins restent relégables. Vous êtes peut-être au milieu ou au début de vos vacances. L'occasion idéale pour bouquiner au soleil. Certains sont allés faire le plein de livres ces derniers jours au premier festival du livre de Paris. C'est en quelque sorte le nouveau nom du Salon du Livre. Nouvelle formule après 2 ans d'annulation pour cause de Covid. Avec nous pour faire le bilan de cette première édition, Jean-Baptiste Passé. Vous êtes le directeur général de ce festival. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Alors le festival du livre de Paris vient de fermer ses portes au Grand Palais éphémère. Que donne la fréquentation de cette première formule du nouveau Salon du Livre ?
Eh bien écoutez, la fréquentation a été exceptionnelle. Les Parisiens, les Franciliens sont venus en nombre. On atteint un record de fréquentation du Grand Palais éphémère. Je suis comblé et très très ému de cette manifestation d'enthousiasme pour le livre et la lecture.
Et c'est-à-dire combien de personnes ? Vous avez une idée ?
Alors, on a les premiers chiffres qui tombent. On va atterrir à 90 000 visiteurs pour le Grand Palais et puis pour les 15 autres lieux dans lesquels on a fait résonner le festival. On était au Petit Palais, on était à l'Académie du Climat. Hier soir, on a reçu Orhan Pamuk, le prix Nobel au Panthéon. On a vraiment essayé d'ajouter au Grand Palais éphémère tout un tas de lieux pour de l'itinérance, pour de la déambulation, pour que le livre aille aussi auprès du public.
Vous avez dit donc 80 000 entrées, c'est ça, si j'ai bien compris. On
90 000.
Alors l'entrée est très gratuite, ça était gratuite, c'est une nouveauté, le Salon du Livre autrefois était payant. Est-ce que ça a pu, inciter les gens à venir ? Vous avez senti aussi un appétit de retour à ces grands salons, après tout ce qui a été annulé, tout ce qui n'était plus possible pendant le Covid ?
Oui, c'est vrai que le festival de la bande dessinée d'Angoulême avait été décalé, Bruxelles a été simplement annulé, donc il n'a pas été très simple d'organiser cette manifestation dans un contexte sanitaire, mais indéniablement la gratuité était attendue. En tout cas, c'est ce qui nous a permis d'accueillir comme ça très très massivement dans un nouveau lieu, vous le disiez, dans une nouvelle formule, parce que on avait à cœur et les éditeurs qui ont rendu cette gratuité possible avaient à cœur de retrouver leurs lecteurs.
On sait que l'an dernier, sans doute aussi, un petit peu grâce au Covid, qui n'a pas forcément eu que des mauvais effets, les ventes de livres se sont très bien portées en 2021, plus 17% de ventes de livres. Je crois que 2022, c'est beaucoup moins bien. Qu'est-ce qui se passe ? On a eu un retour à la lecture et puis finalement un retour au beau jour à l'extérieur qui fait qu'on délaisse à nouveau les livres. Et je crois que l'actualité aussi y est un peu pour quelque chose.
Ouais, indéniablement l'actualité tragique que vous rappelez dans le journal, et puis tout le contexte général de consommation n'est pas forcément, il est plutôt morose et pas forcément extrêmement dynamique. En revanche, le marché du livre a sans cesse prouvé sa capacité de résilience et fort à parier que avec les auteurs très attendus que les éditeurs vont programmer sur le second semestre, on va retrouver cette dynamique forte de l'année précédente.
Allez, on lit tous pour les vacances ou hors vacances. Merci beaucoup Jean-Baptiste Passé. Je rappelle que vous êtes le directeur du Festival du Livre de Paris qui a donc accueilli 90 000 visiteurs.